J'aimerais parler sur le péché caché de David dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uriel le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Judas habite sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait qu'il s'avait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire un rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et il te dira, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors, tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Voilà un passage douloureux, un passage difficile, malheureusement bien connu de la vie de David, parce que David, nous savons que c'est un homme selon le cœur de Dieu, et c'est aussi un homme paradoxal avec ses forces et ses faiblesses. C'est vrai qu'il a vaincu Goliath, il a été ce berger victorieux sur les lions et sur les ours. On peut compter les victoires de David contre les Philistins. Des chants disaient « Saül a tué ses 1000, mais David ses 10 000 ». Il avait donc du succès, des exploits. On peut rappeler les multitudes de psaumes cantiques qu'il a composés, inspirés par l'Esprit, sa communion avec Dieu, enfin, il avait des qualités spirituelles indéniables, et il a donné des précisions sur la crucifixion de Jésus, dans le psaume 22, comme s'il vivait les choses plusieurs siècles à l'avance. Il a vraiment été en communion, inspiré par le Saint-Esprit. Et puis, il y a le versant sombre de David, il y a le côté négatif, il y a le côté où il s'est laissé gagner par certaines difficultés, notamment dans sa propre famille. On sait que David n'a pas toujours su bien gérer sa famille, particulièrement ses enfants. D'ailleurs, il a épousé beaucoup de femmes, ça a généré pas mal de conflits entre les enfants par la suite. Et notamment, l'un d'entre eux, Absalom, s'est révolté contre son père David pour le chasser du royaume. Un de ses chefs d'armée, qui s'appelait Joab, s'est retourné contre lui en désobéissant à ses ordres et en allant tuer Abner. Il avait donc des conflits à gérer, il avait des difficultés dans sa propre famille parce que ses frères ne le respectaient pas, les frères de David n'étaient pas d'accord pour qu'il soit oint alors que c'était le plus petit de la famille. Et Eliab, l'aîné, n'a jamais accepté que David avait été oint à sa place. Enfin, il avait des difficultés quotidiennes. Et puis, ici, on arrive à peut-être le point le plus sombre de la vie de David, c'est son péché avec Bathsheba, suivi du meurtre d'Uri, qui était innocent, c'était le mari de Bathsheba, pour cacher son péché. Il a donc commis un autre péché. On peut dire que David a connu des sommets avec Dieu, mais aussi la profondeur du péché, parce qu'il n'a pas veillé. Et déjà, nous pouvons dégager trois leçons. La première, c'est que nos grands succès avec Dieu ne sont pas une garantie contre une chute. Parce que David ne pouvait pas s'appuyer sur ses victoires dans la tentation. Il devait s'appuyer sur Dieu. Il devait revenir à Dieu et prier de tout son cœur. Et même si nous avons remporté de grands combats, frères et sœurs, à chaque tentation, nous devons revenir au pied du Seigneur, chercher sa face et chercher la victoire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné hier qu'on gagnera aujourd'hui ou demain. Il y a à chaque fois comme le travail à remettre sur l'établi, et rien n'est acquis. Il nous faut sans cesse être vigilants. Une autre leçon que je vois, c'est que le tentateur ne nous laissera jamais aucun répit. Jusqu'à notre dernier souffle, il cherchera des moyens de nous détourner de Dieu. On pourrait dire que le diable, il ne prend jamais de vacances. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, à partir d'aujourd'hui ou demain. Mais le diable, il ne prend jamais de vacances. Il n'a pas de congé. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il cherche des moyens de détourner les chrétiens de la sainte parole de Dieu. C'est pour ça, même les chrétiens, quand ils sont en vacances, le diable n'est pas en vacances. Et il peut vous tenter dans votre lieu de vacances. C'est pour ça, même un chrétien, quand il part en vacances, prenez la parole de Dieu. Continuez à prier le Seigneur. Avoir votre culte quotidien. Chaque chrétien doit passer un temps dans la présence de Dieu. Si nous n'avons pas nos forces spirituelles, même si nous avons eu de grandes victoires dans le passé, nous pouvons être laminés. Comme David s'est retrouvé englué dans cette situation de péché parce qu'il n'a pas veillé. Troisième leçon que je vois dans ce récit, c'est qu'on ne peut rien cacher à Dieu et qu'il a vu toute la situation et que ça va être pour David une épine dans sa chair, ça va être comme quelque chose qui va le suivre pendant bien des mois. Il va refuser de confesser son péché, mais Dieu a tout vu et il va sentir comme la main de Dieu qui est sur lui pour le pousser à la confession. Et il va résister, tout simplement. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Il aurait dû confesser son péché beaucoup plus vite. Alors, en méditant ce récit, qu'est-ce qu'on peut dégager? La première chose, c'est le danger de l'oisiveté. Le danger de l'oisiveté, parce que la Bible dit au verset 1, c'était le temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, David est roi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se mettre en campagne militaire, c'était dans le but des conquêtes. David a estimé que ce n'était pas nécessaire pour lui. Déjà, il s'est pris cette liberté de se dire « Mais pourquoi j'irai toujours au combat ? Je vais lâcher un peu la bride. Je vais me reposer dans mon palais. » Sa présence était vraiment utile auprès des soldats pour conduire les guerres, mais il a laissé ça à son chef des armées, Joab. Pourquoi n'est-il pas allé au combat ? Vous voyez, des fois, l'histoire se joue à une décision. Il a pris une décision, en fait. Je ne vais pas aller au combat cette fois-ci. Mais cette décision va amener des conséquences dans sa vie qu'il n'imagine même pas quand il prend cette simple décision. Allez, cette année, pour une fois, c'était peut-être la seule fois, c'était peut-être la première fois, je n'irai pas au combat avec les soldats. Une seule décision. Si David était parti au combat comme les autres années, peut-être on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire d'adultère avec Bathsheba, ça aurait été toute autre histoire pour David. Mais voilà, une décision anodine, par enchaînement de conséquences, aboutit à une faute tragique. Une petite décision. Mais on trouve ça partout dans l'Écriture. Si vous regardez la vie de la femme de Lot, par exemple, lorsque les anges ont averti Lot, fuyez de Sodome et Gomorrhe, car Dieu a résolu de détruire la ville. Et à ce moment-là, Lot est parti avec sa femme et ses deux filles. Et l'ange a dit une chose très simple, ne regardez pas en arrière jusqu'à ce que vous soyez. Fuyez, mais ne regardez pas en arrière. Et simplement, la femme de Lot a décidé de regarder en arrière. Une décision, une petite décision, c'est pas très grave, regarder en arrière, sauf que c'est désobéir à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, la Bible dit qu'elle a été transformée en statue de cerf. Elle est morte à cause de cette décision, une petite décision. Samson, qui a tout simplement révélé son secret à Delilah. C'est une petite chose. C'était juste dire qu'il ne fallait pas qu'on lui coupe les cheveux. Ses cheveux n'avaient pas été rasés depuis son enfance. Il lui faisait confiance. À partir de là, Delilah lui a fait raser les cheveux, Samson a perdu sa force, les yeux crevés, il a tourné la gueule. Donc sa condition a été lamentable et il a fini comme un esclave. Une petite décision qui aura des conséquences dans toute une vie. C'est le cas de David, c'est peut-être notre cas quand nous prenons une décision à la légère, qui va avoir des conséquences et des répercussions sur notre famille, sur nos enfants, au travail, voire jusqu'à la perte d'un emploi, parce que, voilà, on a pris une décision anodine, mais les conséquences ont fait boule de neige. Et David n'était pas à sa place, il n'était pas à la bonne place. Il n'était pas au combat spirituel. Il est resté à Jérusalem. Jérusalem, ça signifie les fondements de paix. C'est un lieu de paix, c'est le lieu de la présence de Dieu. Mais c'est aussi dans ce lieu-là que David, qui aurait pu entretenir sa communion avec Dieu, va chuter, va pécher et va s'éloigner de lui. Alors, le danger de l'oisiveté, vous le voyez ici, au verset 2. David se leva de sa couche et il se promenait sur le toit de sa maison royale. Voilà. Du coup, il n'avait rien à faire. Puisqu'il n'était pas parti au combat avec les autres, ben, il était oisif. Il n'avait rien à faire. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien à faire ? On traîne. On traîne à gauche, à droite. On traîne sur la télévision, on traîne sur Internet. On laisse nos pensées vagabonder à gauche, à droite. Mais ça, c'est pas bon du tout. Ça prépare des mauvaises rencontres. Ça prépare des mauvaises choses. David aurait pu se secouer et dire, mais ça, c'est pas bon que je traîne ici. Il aurait pu aller dans son palais, composer un psaume, méditer la parole de Dieu, il aurait pu s'occuper l'esprit. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu dans vos cœurs. Il aurait pu faire des tas de choses, peut-être sortir se promener ailleurs, en tout cas quitter ce lieu. Mais le diable avait tendu un filet là sous ses pas, et justement, une femme au loin se baignait, et voilà, il a été attiré par cette femme. Et ça, il aurait dû le rejeter, il aurait dû réagir dans son cœur et ne pas entretenir ses mauvaises pensées. Mais comme il était oisif, comme il n'avait rien d'autre à faire, eh bien voilà. Le péché est arrivé par une succession de manquements. Alors, c'est à nous d'utiliser notre temps de manière utile. Parce que l'oisiveté, c'est vraiment quelque chose qui nous conduira très souvent au péché. Nous n'avons rien à faire, nous ne savons pas quoi faire, et nous laissons notre esprit se remplir de tout ce que le monde met à notre disposition. Et immanquablement, il y aura des sources de péché là-dedans. On pourrait dire que ce n'est pas très grave, parce que se promener sur le toit, il n'y a rien de mal. Jusque-là, tout le monde a le droit d'aller se promener, tout le monde a le droit de sortir, et puis de regarder un peu à gauche à droite. Mais vous voyez que le diable, il attend ces moments-là, où il y a une oisiveté, où il y a un temps où David est peut-être, peut-être plus fragile, dans le recul spirituel, il n'est pas au combat. C'était le moment, en tout cas, opportun pour une tentation. C'est à nous d'occuper notre temps, car le diable cherchera les occasions de oisiveté pour nous tenter. Le deuxième point, c'est la tentation qui survient. Alors, comment est-ce que le diable s'y prend? Il va permettre que David, en laissant traîner ses yeux, ses yeux tombent sur cette femme, Bathsheba. Au moment où David aperçoit Bathsheba, il pourrait encore résister au péché. Et se dire, oh là là, il faut que je parte de cet endroit, il faut que j'aille dans le palais, il faut que j'aille m'entretenir avec d'autres personnes, faire autre chose. Mais comme il n'a rien à faire, il va entretenir ses pensées en convoitant cette femme qui s'appelle Bathsheba, il ne sait pas encore son nom, il ne sait même pas encore qu'elle est mariée à ce moment-là. Mais déjà là, nous avons le devoir de réagir et de ne pas laisser notre esprit, dans notre esprit, des pensées de convoitise. Il y a un verset de Job 31, verset 1 qui dit ceci. C'est Job qui parle. Il dit, pardon, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il prenait une discipline dans sa vie à ne pas laisser ses yeux et son imagination s'attarder sur une jeune femme alors que lui était marié et de se dire « Tiens, ça serait bien, ça serait tellement bien si j'étais avec cette femme alors qu'il est marié déjà. » Ça, c'est déjà un péché dans son esprit. Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux que ton corps n'aille pas entier dans la gêne, que tu sois sauvé. Donc à ce moment, la victoire sur la tentation est toujours possible quand on rejette cette pensée au nom de Jésus. Mais voyez, la convoitise a nourri cette pensée dans son cœur, et finalement, tu serais peut-être plus heureux avec cette femme qu'avec ta femme. Il avait déjà plusieurs femmes, David. Mais il s'est dit, peut-être avec celle-ci, ce sera encore un autre bonheur pour moi. La convoitise, tout ça, c'est des artifices du mal. C'est bien expliqué dans Jacques chapitre 1, verset 14. La convoitise s'empare du cœur et va pousser la personne au péché. Jacques chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et regardez le mécanisme maintenant. David a convoité, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfant le péché. Alors il est rentré dans ce cercle vicieux. Et le péché étant consommé, produit la mort. Tout ce qui est annoncé ici, David va le vivre par étapes. La convoitise. Étape suivante, au lieu de résister, de rejeter, il va rencontrer cette femme et pécher. Je remarque que lorsqu'il a fait venir auprès d'elle, David, au verset 3, il fait demander, mais qui est cette femme? Mais les serviteurs lui disent, attention, cette femme est mariée, c'est la femme d'Uri, le Héthien. Ça veut dire que même les serviteurs disent à David, attention, c'est une femme mariée. Et ils savent très bien, comme David le sait, que tu ne commettras point l'adultère. Donc les serviteurs, ils rappellent à David la loi, la parole de Dieu. Attention. Parce que même si quelqu'un est roi, David était roi, il n'est pas au-dessus des lois de Dieu. Il devait respecter la loi, il ne devait pas commettre l'adultère. Mais voyez, David, il écoute plus fort. Quand l'esprit est harponné, le péché. C'est le point suivant. Troisième point, le péché de David, qui a commencé directement dans son cœur, Jésus l'explique. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Donc, c'est-à-dire, spirituellement, il a déjà péché. Il n'a pas encore rencontré cette femme, mais il a entretenu des pensées, donc son cœur est rempli de péché à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut demander pardon. Mais non, il ne se repent pas. Les pensées d'adultère le poussent à aller voir cette femme. Il se croit maître de ses actes et puis il va devenir esclave du péché. Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 31. Comment un homme comme David a pu tomber aussi bas? Un homme aussi proche de Dieu, un homme qui reçoit des révélations, un homme spirituel, comment peut-il tomber dans un adultère aussi bas que d'aller coucher avec la femme d'un homme qui est un de ses propres soldats? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a chuté. D'abord, il n'a pas combattu les mauvaises pensées qui sont rentrées dans son esprit. Il les a laissées prendre racine. Vous voyez, quand un gland tombe en terre, au début, ça va pousser une toute petite plante. C'est facile de déraciner. Et si vous attendez 10 ans, 15 ans, si vous attendez 50 ans, ça prend racine, ça devient un chêne monumental. Et là, ça a pris racine. C'est pareil avec les pensées. C'est facile de les chasser au début. Dès qu'elles viennent dans notre esprit, nous pouvons prendre autorité. Et cette pensée de cette femme, il aurait dû la rejeter. Et là, c'était plus facile. Mais une fois qu'il a entretenu, la racine commence à prendre pas et ça devient profond là. Et là, ça l'a maintenu dans le péché. Autre problème chez David, il s'est cru en tant que roi au-dessus du lot. C'est vrai qu'il avait eu des grands succès, mais attention, frères et sœurs, nos succès peuvent être un piège pour nous faire chuter. Donc, nos succès, nous devons rester là. Il avait une bonne communion avec Dieu, il était roi. Il avait donc plein de privilèges qui fait qu'il a vu, bon, c'est un petit péché, c'est pas trop grave, et il a cédé. Et puis, il a vu le côté agréable du péché plus grand que le problème des commandements de Dieu qui disent que ça, c'est un péché qu'il ne doit pas. Et il a vu l'avantage plus grand que la parole de Dieu. Mais c'est un avertissement pour nous, parce que nous ne sommes pas à l'abri. Et la Bible nous dit bien de veiller sur notre âme, afin que lorsque nous sommes tentés, de ne pas céder à la tentation, mais de résister au malin, de rejeter ses pensées. Donc veillons sur ce que nous regardons, sur ce que nous disons, sur ce que nous pensons. C'est le combat spirituel du chrétien, parce que le péché, c'est quotidien. Hébreux chapitre 12, verset 4 dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Le péché, c'est une lutte. La Bible était en lutte, mais il a été vaincu. Et la Bible nous dit non. Nous devons confesser nos péchés, oui, prendre les armes spirituelles, chasser ses mauvaises pensées, prendre des victoires sur le péché, c'est-à-dire lutter pour la victoire sur le péché. Un quatrième élément que je vois dans ce texte, c'est l'aveuglement qui s'abat sur David, qui est dans son péché. Et comme il a couché avec Bathsheba et que maintenant elle est enceinte, la première pensée qu'il a, c'est que pour effacer son péché, il faut faire venir le mari de Bathsheba pour qu'il aille coucher avec elle, comme ça il croira que cet enfant c'est Dieu. Vous voyez un peu le mécanisme qui est dans son esprit. C'est grave quand même, toutes ces pensées, c'est vraiment pas de Dieu, parce que le péché enfante toujours la mort, et le péché enfante d'autres péchés. Donc la suite du récit, c'est la tentative de David pour cacher sa faute. Notez qu'à aucun moment, il n'a la pensée d'aller se repentir. Ça, c'est triste. un croyant. Alors il va faire venir Uri, parce que lui, ce qui compte, c'est que son péché soit couvert aux yeux des hommes, aux yeux du peuple, que son péché soit couvert, que personne ne sache. Il n'est pas dans le bon raisonnement. David est complètement aveuglé. Alors regardez le verset 8, c'est l'ordre à Uri. David dit à Uri, descends dans ta maison, lave-toi. Voilà, va avec ton épouse, profite de ce congé. Et il espère, avec un cadeau, il fait des cadeaux, hein, il espère que tout ça va être couvert, caché, et que Uri ne se rendra compte de rien. Mais Uri, c'est un homme intègre. C'est un homme droit, et il sait que les autres sont au combat, et que lui, il a eu une permission pour venir, mais il ne veut pas profiter de cela pour aller dans sa maison. C'est une question de déontologie pour lui, il veut rester fidèle à ses engagements, et il ne va pas donc dans sa maison. Ça, c'est l'intégrité d'Uri. C'est un homme sérieux, c'est un homme fidèle. En fait, c'est par une question morale qu'il s'interdit d'aller voir sa femme alors que les autres sont au combat, par rapport à la loi, par rapport à la solidarité. On remarque, entre la moralité de cet homme, qui pourtant est d'origine païenne, parce que c'est précisé, Uri le Héthien, les descendants de Heth, c'était de Canaan, donc c'était des gens éloignés du peuple de Dieu. Et pourtant, lui, au contact des croyants, il avait une morale plus élevée que David. Il était plus droit. Alors que son origine était éloignée de Dieu. Vous voyez, quelquefois, des croyants ont une morale qui est tombée si bas que même des non-croyants vont avoir une attitude morale plus élevée que des croyants. David est tombé très bas dans sa morale. Il est comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu pour vivre dans l'immoralité dans laquelle il est. Ça, c'est le péché qui peut transformer un croyant en quelqu'un de complètement immoral. Verset 13, il va tenter d'enivrer Uri. David l'invita à manger et boire en sa présence. Il l'enivra. Il l'enivre pour que Uri perde le bon sens et qu'il aille quand même finalement vers son épouse. Mais ça ne fonctionne pas. Échec sur échec. Toutes les tentatives de David pour faire aller Uri vers sa femme n'aboutissent pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire et dire, mais ça ne va pas, j'ai quelque chose que je fais, c'est pas normal. Il aurait dû quand même rentrer en lui-même et se dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Ça ne fonctionne pas, vous voyez. Dieu permet que toutes ces tentatives échouent, mais c'est pour l'interpeller. Ça nous montre que quand le péché rentre dans un croyant, ça emprunte un raisonnement qui est loin de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 2 dit ceci. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça crée une marque de souillure, une marque de péché dans leur conscience. Littéralement, c'est comme s'ils sont marqués au fer rouge par le péché. Et à ce moment-là, pour David, Uri, ce n'est qu'un pion. Il va utiliser ce pion pour arriver à ses fins, mais il n'est plus dans la pensée de Dieu. Il n'est plus en communion avec Dieu à ce moment-là. Et puis on arrive au meurtre, au verset 15. Vous voyez, ça augmente. Il va se dire, la seule solution qui me reste pour cacher mon péché, c'est de faire en sorte que Uri meure au combat. Est-ce que c'était vraiment la seule solution? La solution qui restait toujours, c'était de confesser son péché et de demander pardon. Il refuse cette possibilité. Et voilà. Ça aboutit à la mort d'un homme qui était fidèle. Cette pensée de mort, elle ne vient pas de nous. Quand on est dans le péché, les pensées qui nous viennent, elles viennent du mal. C'est Satan qui a mis dans le cœur de David cette pensée. Ben voilà, si tu veux être tranquille, David, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Comme ça, personne ne saura rien. Et ça va porter David à faire un acte contre nature. Car David sait très bien que c'est un meurtre, c'est grave. Mais il va faire quelque chose de contre Dieu. Uri n'y est pour rien. C'est Uri lui-même qui va porter la lettre à Joab. Et dans cette lettre, c'est marqué qu'il faut mettre Uri au plus fort du combat et que Uri. David est dans la spirale frénétique du mal. Je termine avec un dernier point, c'est est-ce que c'est une réussite cette affaire? Parce que quand on lit le récit, jusqu'au point où on s'est arrêté, en fait, le plan de David a fonctionné. Apparemment, plus personne ne va rien découvrir de cette affaire, puisque Uri est mort au combat. David est très soulagé, il va faire venir Bathsheba, il va la prendre pour épouse. Donc tout ça va passer comme incognito. Ce qui est étonnant, et ce qui m'a toujours bouleversé en lisant ce passage, c'est que David fait tout comme si c'était normal, comme s'il n'y avait rien de grave. Il continue à faire son service de roi, il continue à faire ses activités, oui. Mais il vient de faire un adultère, tuer un homme, et il continue à vivre une vie normale. C'est ahurissant quand même. Et c'est incroyable. Sa conscience est vraiment souillée, elle est marquée, et il ne réalise pas combien les choses qu'il fait, c'est grave. Elle est entachée, elle est souillée, et une conscience, même la conscience d'un chrétien, un chrétien qui, finalement, comme David, entretient des mauvaises pensées, vit dans le péché, eh bien, la conscience du chrétien, elle est tellement diminuée qu'il ne réagit même plus, il n'a même plus la conscience de la gravité de sa situation. Et Dieu dans tout ça. Alors, on arrive au verset 27, on l'a pas lu tout à l'heure, mais c'est ça la finalité. Verset 27, « Quand le deuil fut passé, David envoya chercher donc Bathsheba, l'accueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Voilà, tout est dans ce dernier verset. C'est-à-dire que Dieu a tout vu. Dieu n'approuve pas, mais il nous laisse libre et responsable. David s'est entêté dans son péché, il va y avoir des conséquences. En tout cas, le péché doit être sanctionné. Il va y avoir une mise au jour, comme David résiste, et ce sera vrai pour nous, celui qui refuse de confesser son péché. Alors Dieu permet que le péché soit mis en lumière d'une autre manière. C'est pour ça qu'il faut toujours mieux le confesser soi-même, plutôt que d'attendre que ça sorte d'une autre manière. Et là, c'est un prophète qui va venir vers Jésus, vers David, et il va lui dire, de la part du Seigneur, il va lui raconter une histoire, et il va dévoiler qu'il a fait le péché à lui-même. Va être mis en lumière. Et là, il va être obligé de confesser son péché. Mais il aurait eu bien raison, David, de confesser son péché de lui-même et beaucoup plus tôt. On peut tromper les hommes, c'est ce que David a réussi. C'est vrai que sur le plan humain, il a réussi, il a conservé la royauté, il a conservé sa dignité, personne n'a rien su, il n'y avait que Bathsheba et lui qui étaient au courant. Donc, tout était bien. Mais en réalité, spirituellement, c'était très mauvais. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait qu'il règle son problème et que cela se passe devant Dieu. Alors de tout temps, les croyants ont toujours eu tendance à cacher leurs péchés. Et c'est vrai pour nous, il faut veiller à ça. Si on remonte à Adam et Ève, ils ont voulu cacher leurs péchés aux yeux de Dieu. Donc ils n'ont pas voulu confesser quand ils ont désobéi. Et même ils ont fabriqué des feuilles de figuier pour se cacher aux yeux de Dieu, cacher leur nudité. À quand, lorsqu'il a volé de l'or et de l'argent alors que c'était interdit, il n'a pas confessé son péché, il l'a caché sous la terre. Mais c'est Dieu qui l'a dévoilé. Pareil avec Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a trompé Naaman en disant « Mon serviteur, Élisée, avait besoin de vêtements, d'argent, et puis Naaman lui donne tout ça, mais c'était pour lui, c'était pour le voler. Il a tout caché chez lui. Il n'a pas confessé son péché, il a été lépreux. » Dieu ne laisse pas le péché impuni. On le voit avec Ananias et Saphira qui montent à Dieu au Saint-Esprit et ils ont été repris. Donc tous sont échoués et nous échouerons aussi si nous ne voulons pas confesser nos péchés. Si, comme David, nous persévérons pour essayer de le cacher par d'autres moyens. Mais à la fin, en finalité, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant issu de cette union est mort. Il y a eu une sanction terrible à cause du péché. On l'a dit, le péché enfante la mort. L'enfant est mort, il n'y est pour rien cet enfant. Uri est mort, il n'y est pour rien. Lui. Il y a eu beaucoup de dégâts à cause du péché. Le seul moyen d'en sortir du cercle vicieux, c'est la repentance. Et demander pardon à Dieu. En conclusion,
voyez, cette histoire, alors, elle n'a dû jamais apparaître. Il était parti se promener sur sa terrasse. Tout simplement. David était parti se promener sur sa terrasse. Et un enchaînement de circonstances l'a fait tomber dans 5 péchés contre les 10 commandements. Il a péché contre 5 des 10 commandements. Tu ne convoiteras point. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Il a enchaîné toutes ses désobéissances. Tout ça, ça a commencé en allant se promener. Vous vous rendez compte? Comme quoi, il faut être vigilant. Alors, c'est vrai que par la suite, quand Nathan vient vers lui, dévoile son péché, il va se repentir. Mais s'il l'avait fait plus tôt, on aurait épargné tellement de situations douloureuses. La mort d'un innocent, un enfant qui est repris. David, qui souffrait. Au psaume 51, il dit « Car je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. » On pourrait dire, c'est bien, mais c'est tardif. S'il l'avait seulement fait plus tôt, s'il avait seulement réalisé le mal plus tôt. L'histoire de David montre combien c'est bon la repentance, mais qu'il ne faut pas tarder. Et que nous devons être vigilants. Un peu plus tôt, il avait écrit une ode lors de la mort de Saül et Jonathan, son ami de David. Il avait écrit un poème funèbre. Et les paroles de ce poème, c'est « Comment des héros sont-ils tombés ?» Et quand il a écrit ce poème, il ne savait pas que lui aussi, il allait tomber. Il faisait partie de ces héros, mais il n'a pas veillé. Et il le voyait pour Saül, il le voyait pour les autres, mais voyez, il ne l'a pas vu pour lui-même. Comment est-ce qu'ils sont tombés? C'était des gens qui connaissaient Dieu, c'était des gens près de Dieu. Et puis, dans sa propre vie, c'était un héros, David. Et il est tombé lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voyait facilement chez les autres les problèmes, mais dans sa vie, il ne voyait pas le malin s'infiltrer et gagner son corps. Vous voyez, ça nous incite à être vigilants. L'ennemi ne nous laissera pas tranquilles, il va continuer. Donc, prenons le temps de prier, de méditer et de réagir. Et puis de confesser le péché promptement en demandant pardon à Dieu. Remettons toutes ces choses entre les mains du Seigneur. J'aimerais que nous terminions par la prière. Merci encore pour ta parole et nous croyons que tous ces exemples servent d'avertissement pour nous, car David était un homme tellement proche de Dieu et pourtant le péché a fait une œuvre dévastatrice qui a ravagé sa vie, qui l'a entraîné très loin du Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour que chacun d'entre nous soyons vigilants, comme ta parole nous enseigne, à tirer des bonnes choses des Écritures afin de nous enseigner, afin de canaliser nos pensées, afin de garder nos yeux dans la bonne direction et de ne pas laisser l'accès aux malins qui cherchent toujours à détourner les vrais croyants de ta sainte parole, qui cherchent à les entraîner dans des voies de détour, à nous entraîner dans des voies de péché. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui est dans ces combats, afin, Seigneur, que nous ayons toujours ces armes à notre portée, que nous puissions proclamer ta parole contre le malin, le tentateur, que nous puissions vraiment nourrir notre esprit des bonnes pensées spirituelles. Seigneur, nous voulons lutter et combattre même pendant ces temps d'absence, peut-être des uns et des autres, des congés. Eh bien, Seigneur, nous voulons toujours être vigilants, sensibles à ta pensée, sensibles à ta voix. Garde chacun de nous le reste de cette journée dans le nom de Jésus. Amen.